C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par le dossier des sites de location à court terme, là, ce qu'on appelle les Airbnb. Je peux vous dire que quand j'ai lu ça dans la presse samedi, ça m'a rappelé le discours de mon ami Luc Ferrandez sur la présence de ces logements qui sont loués à court terme. Il y a eu le problème sur le plateau. Puis dans toutes les villes du monde, ils sont confrontés à la disparition de logements pour les familles, pour les individus. Et souvent, vous avez des gens qui achètent comme ça un paquet de logements pour les convertir plus ou moins légalement. Alors, c'est quoi le portrait à Montréal? Dans le vieux Montréal, sauf quelques exceptions, il est interdit de louer des appartements à des touristes. C'est interdit. Et quand on le fait, parce qu'on a le droit de le faire, il faut s'inscrire, il faut faire une déclaration. Ça, c'est la responsabilité de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, puis il y a un numéro d'inscription. Ça découle de la loi sur l'hébergement touristique. Dans les faits, ça, c'est la théorie, là. Dans les faits, à peu près personne fait ça. Les propriétaires ont pas de numéro, dans beaucoup de cas, ou en tout cas, ils sont pas affichés. Et vous avez encore, puis je suis allé le vérifier hier, des dizaines et des dizaines d'appartements disponibles pour de la location à court terme. Nous avons invité à la fois les gens de la Ville de Montréal, à la fois Tourisme Québec, de venir répondre à nos questions. Et là, c'est la partie de ping-pong. On se lance la balle. Tourisme Québec nous répond quoi, vous pensez? Ben nous autres, là, on applique une loi provinciale, on fait pas les inspections. Réponse de la Ville de Montréal, on n'a pas d'inspecteur pour ça, c'est dans la Cour de Québec. Et ça, c'est un exemple patent des mouvements dysfonctionnels entre une ville, une métropole et Québec. Je savais que la Ville de Montréal pouvait inventer des logements qui n'existent pas, mais je pensais pas qu'ils passaient des règlements qu'ils étaient incapables de faire respecter. Est-ce qu'on est sérieux à la Ville de Montréal quand on mène une lutte contre ce type d'hébergement dans le vieux Montréal et que c'est sur la place publique, c'est sur les différentes plateformes de location, puis on en trouve des logements? Parce que c'est normal qu'on ait des logements de cette nature, pas de fenêtres. Est-ce qu'il y a des gicleurs? Est-ce qu'il y a des détecteurs de fumée? Je le sais pas. Mais je comprends M. Lacroix qui a eu la douleur de perdre sa fille, qui lui-même, je pense, fait du Airbnb, là. Alors, il ne s'agit pas d'être contre ça, mais est-ce que quelqu'un peut venir répondre aux questions là-dessus? Ben, tenez-vous bien, ce matin, c'est quelqu'un de la Ville de Québec qui va venir. Parce que à Québec, au gouvernement, et à la Ville de Montréal, on refuse de répondre, puis on se passe la rondelle. La meilleure que j'ai entendue, on ne peut pas commenter, il y a une enquête criminelle qui est en cours. Comment? Ça n'a rien à voir avec l'enquête criminelle, là. Ça a à voir avec la façon dont vous gérez vos lois et règlements. Et c'est carrément là de la poudre aux yeux qu'on lance aux citoyens. Ou on tolère, puis on accepte, puis on encadre, mais on fait pas semblant là qu'on est hyper sévère, puis qu'on applique des règlements pour combattre ça. La vraie vie, vous pouvez louer ce que vous voulez, à qui vous voulez, le temps que vous voulez, avec, disons, la très, très faible possibilité de vous faire prendre avec quelques amendes. C'est ça la réalité. L'autre chose aussi ce matin, toute cette violence dont on parle. Je parlais du gars de 16 ans, poignardé, l'autre de 18 ans qui s'est fait tirer hier soir, très tard. Vous remarquerez qu'il y a de plus en plus ce type d'événement avec les beaux jours qui reviennent. Ce triple meurtre dans Rosemont, vendredi. Un jeune homme perturbé, dit-on. Problème de santé mentale connu et de consommation qui a été formellement accusé, s'appelle Arthur Galarneau, d'avoir tué son père, sa mère, sa grand-mère. Et sur les réseaux sociaux, il semblait vouloir dire qu'il allait mieux, que sa vie avait changé, qu'il y avait moins de problèmes de consommation. Et ça, j'ai envie de vous en parler ce matin, parce que depuis l'histoire de Laval, de la garderie, le drame la semaine dernière à Amqui, l'histoire vendredi. Donc, des meurtres de masse. Des meurtres commis par des gens qu'on pense perturbés. Et Dr Marie-Ève Coton l'a dit la semaine dernière, dans le trois quarts des cas, ce ne sont pas des gens qui ont un enjeu de santé mentale ou de maladie mentale. Ce sont des gens qui ont toutes sortes de problèmes, des problèmes d'isolement, d'être capable d'entrer en interaction avec les autres. Ils sont victimes de bullying, ils sont refermés sur eux et ajoutés à cela les problèmes de consommation. Et je vous dirais qu'on n'en parle peut-être pas assez. Et j'osais avec des amis en fin de semaine qui, disons, connaissent assez bien le milieu policier. Puis on avait tous la même réflexion. Quand la police annonce qu'ils ont saisi des millions de comprimés, peu importe la nature, là, ce qui est fait en laboratoire, coupé avec n'importe quelle substance, il y a toujours bien quelqu'un qui achète ces comprimés. Il y a toujours bien un marché pour ce type de drogue. On a parlé beaucoup de la crise des opioïdes dans l'ouest du pays, un certain nombre de cas à Montréal. Mais les psychoses causées par la dope, faudrait peut-être qu'on s'en parle franchement, puis je vais en parler avec Marie-Ève Coton un peu plus tard dans l'émission ce matin, parce que je trouve pas ça banal. Et des gens qui n'ont pas nécessairement une maladie mentale, mais le mélange d'une déception dans la vie, d'une série d'échecs, d'isolement. Un jeune Galarneau qui passait, semble-t-il, tout son temps dans son sous-sol, ça veut quand même dire quelque chose. Puis ajouter à cela consommation de différentes drogues, je ne sais pas ce qu'il prenait, mais ça peut amener des cas de psychose et ça peut conduire à des gestes extrêmement violents. Puis j'en ai déjà interviewé. Je me souviens d'un gars qui avait tué son père parce qu'il entendait, disons, des voix, mais il consommait toutes sortes d'affaires. Alors, ça va être intéressant de revenir sur cette question-là. Et puis, je vous donne deux ou trois manchettes rapides avant d'aller retrouver Marc, là. Je lisais en fin de semaine la réalité des itinérants. Tu sais, dans certaines villes aux États-Unis, on appelle ça une crise humanitaire. Pourquoi? Parce que dans des villes, je vous donne l'exemple de Phoenix, qui a vu le nombre, depuis la pandémie, là, le nombre d'itinérants, de campements, de sans-abri, là, se multiplier. Il y a des commerçants qui entrent le matin pour ouvrir un restaurant. C'est le monsieur qui arrive en premier, il a son poivre de Cayenne, il fait le tour, puis il appelle sa femme puis dit « OK, tu peux t'en venir, on est correct ce matin. » Il y a personne qui a essayé de défoncer, il y a personne qui bloque l'entrée. Il y a des commerces qui embauchent, des agents de sécurité. D'autres villes, Seattle, il y a 2300 commerces qui ont quitté le centre-ville depuis 2020. Santa Monica, en Californie, il y a une banderole qui est installée par des propriétaires où c'est écrit « C'est un coin dangereux, c'est un coin de dépravé, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. » Et si vous êtes déjà allé à Santa Monica, des personnes itinérantes, il y en a beaucoup. Puis des gens qui sont pas traités, qui ont des problèmes graves, ben vous les retrouvez sur la rue. Et je vois encore ce matin des manchettes. La santé mentale est au cœur des drames qui secouent Montréal en 2023. Ça, c'est Radio-Canada. Avant la thérapie dans le devoir, la liste d'attente des hommes qui demandent de l'aide, qui ont besoin d'attendre des mois avant d'intégrer un groupe de thérapie. C'est pas qu'un petit problème. Et on peut pas juste banaliser la chose en disant, ben là, on manque de ressources, puis c'est un enjeu de santé mentale. Je pense que c'est quand même beaucoup plus profond que ça, puis en tout cas, on va essayer d'en avoir un début de discussion là-dessus ce matin. Très bien. La presse nous dit ce matin que le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit prendre la parole à huis clos devant une cinquantaine de gens d'affaires qui lui ont fait d'ailleurs une invitation par le biais de la Chambre de commerce. L'objectif, c'est de faire du recrutement pour sa nouvelle agence de santé. Et ce que la presse dit ce matin, pour reprendre une expression consacrée, M. Dubé veut des top guns du secteur privé pour diriger la future agence. Donc des gens qui sont habitués de diriger beaucoup d'employés, des grosses structures, d'être efficace et d'être redevable et d'avoir le goût de l'aventure du secteur public, parce qu'on est dans deux univers. Et ça veut dire ultimement peut-être les payer pas mal plus cher que les sous-ministres ou certains hauts fonctionnaires qu'on trouve à Québec. Alors, la question, est-ce que des gens vont être intéressés à quitter un emploi payant où ils performent dans le secteur privé, où ils sont bien vus et appréciés, pour aller vers le secteur public. Vous allez me dire, il y en a qui l'ont fait en politique. Christian Dubé est un exemple. Fitzgibbon est un exemple. Il sera notre invité ce matin. Mais Sophie Brochu est allée à Hydro-Québec, elle quitte, mais quand même, c'est des emplois évidemment payants, vous allez me dire, mais il y a des gens qui font pas mal plus dans le privé. Alors, on comprend l'idée de miser sur l'expérience de l'administration et moins de l'appareil gouvernemental, puis de ce qu'on appelle le service à la clientèle. Le Journal de Montréal nous dit ce matin que la ville de Mont-Saint-Hilaire se retrouve coincée avec une patate chaude qui coûte une fortune, c'est-à-dire le manoir Rouville-Campbell. C'est à Yvon Deschamps. Il a vendu ça à la famille Imbeau. Et ça a été la descente aux enfers avec toute la, tout le contexte de la pandémie. Et puis, la ville a décidé de reprendre ça. Et on a offert à la firme de M. Imbeau un reçu fiscal en 2022 de 31 millions. Puis là, la ville dit, c'est merveilleux, puis on va pouvoir opérer ça. Dans les faits, ça coûte 1 million par année aux citoyens. Il y a Marcel Leboeuf, qui est conseiller municipal, qui est comédien aussi, vous le connaissez, qui dit que ça n'a plus de bon sens. Puis que là, il faut trouver une solution au dossier du manoir Rouville-Campbell. Également, ce matin, sur la scène internationale, il y a quand même pas mal de choses à surveiller. Avec, entre autres, la visite au sommet entre Vladimir Poutine, rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, son vis-à-vis chinois. La Chine qui dit vouloir essayer de réunir les conditions pour une sortie pacifique de la guerre en Ukraine. Mais ça va être assez difficile également. Et aussi, entre-temps, on nous dit que les combats font toujours rage dans la région de Bakhmout. Dans les autres nouvelles internationales, en France, quatrième jour de manifestation contre les retraites. Le président Macron dit qu'il veut aller au bout des retraites. Il y a encore des affrontements dans différents quartiers. Vous aurez aussi ce matin, ou en fait autour de 10 heures, là, heure de Montréal, le rapport du GIEC, le groupe des experts de climat des Nations Unies. Alors, c'est une espèce de bilan, de consensus scientifique sur les changements climatiques. Il y a la Suisse UBS devant la pression pour éviter que le domino bancaire tourne dans le mauvais sens, qui a décidé d'acheter sa rivale Crédit Suisse pour 3 milliards d'euros. Mais encore ce matin, on peut dire que les marchés sont assez nerveux. Et puis, je termine en vous parlant de Donald Trump. Si on résume l'affaire Trump en quelques mots, là. D'abord, en fin de semaine, il a dit à ses fans, à ses partisans, ils vont venir m'arrêter. Ils vont venir m'arrêter, c'est une opération montée de toutes pièces par les démocrates, ça n'a rien à voir avec la justice. Je vous demande de vous mobiliser et de me soutenir dans cette épreuve. Ça va se passer mardi, a dit M. Trump. Là, vous allez me dire comment il sait qu'il peut se faire arrêter. Alors, il y a une enquête qui est menée. Et c'est quoi l'enquête? C'est le paiement de 130 000 $ versé à ce qu'on appelle une vedette de film pour adultes, qui aurait eu donc des liaisons avec M. Trump. Et 130 000 qu'on lui a payé pour qu'elle ne témoigne pas, qu'elle ne dise rien. Il y a deux enjeux dans ça. Un, est-ce que c'est vrai qu'il a passé ça dans les dépenses de la compagnie? Si c'est le cas, c'est une forme de fraude. Puis deuxièmement, est-ce que ça a été une dépense électorale qui n'a pas été comptabilisée parce qu'on a voulu la faire taire? Beaucoup d'experts juridiques disent que le district attorney tire pas mal fort sur l'élastique pour essayer de coincer Trump. Trump est en Floride, à moins qu'il soit revenu. Et d'après ce qu'on comprend ce matin, si jamais il est accusé, puis imaginez le spectacle qu'on va voir, il a l'intention de se rendre aux autorités pour être entendu par un grand jury. Et c'est son ancien avocat qui est un peu le témoin délateur dans toute cette affaire-là. Mais ça peut dégénérer, il peut y avoir des manifs. Puis c'est pas pour rien, là, qu'il fait encore une fois un appel en disant, ben, ça peut pas, on peut pas rester les bras croisés quand on utilise le système judiciaire à des fins politiques.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Plusieurs dossiers concernent le ministre de l'Économie, comme on sait, il emmène large, de l'innovation et de l'énergie. Notamment l'annonce qui a un peu surpris tout le monde la semaine dernière quand on a appris que Volkswagen irait en Ontario pour installer une méga-usine de batteries. Le ministre Pierre Fitzgibbon est avec nous. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
D'abord, c'est bien dur à comprendre pour les Québécois, là. qui se perçoivent avec raison comme étant les champions de l'électricité, de voir une entreprise dire « Non, nous, on va en Ontario, ils sont capables de nous fournir l'électricité plus que le Québec. » Comment ça se fait que c'est l'Ontario qui ramasse l'usine?
Ben, je pense qu'il faut tourner un peu en arrière puis regarder un peu aussi le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec a déposé pour les nouvelles, les nouvelles productions. Si on regarde depuis 10 ans, le nombre de projets qui ont requéri 50 mégawatts et plus au Québec, c'est zéro. Donc, le Québec n'a eu aucun projet de 50 mégawatts depuis 10 ans. Quand Hydro-Québec a planifié la demande dans les prochains, l'horizon 2032-2030, ils ont décidé, et à juste titre à l'époque, qu'il y avait à peu près 1500 à 1600 mégawatts qu'il fallait réserver pour les nouvelles filières industrielles. Parce que, à ce moment-là, l'histoire démontrait qu'il n'y avait pas de projet industriel. Le MEI, le ministère que je dirigeais à l'époque, et encore aujourd'hui, au printemps dernier, ben, nous avions évalué, on l'avait dit en fait publiquement, qu'il y avait eu 23 000 mégawatts de demandes. On sait très bien que la moitié de ça n'était pas des projets véridiques. Bon, on est arrivé après 8 à 10 000 mégawatts de projets. 1500. Alors nous, il y a eu une transformation importante énergétique qui requiert des électrons de l'énergie renouvelable pour des projets qui n'existaient pas avant. Donc, revenons encore à Volkswagen. Volkswagen, c'est 800 mégawatts.
OK, mais ma question, là, c'est pourquoi l'Ontario est capable de fournir l'électricité puis pas nous autres?
Eux le font avec du gaz naturel.
Puis eux sont meilleurs que nous autres pour produire de l'électricité pour fournir ça à Volkswagen.
Oui, bien, à Saint-Thomas, allé, il y avait cette capacité-là. Nous, Volkswagen, je devis devant moi, nous demandait 665 acres et nous demandait 800 mégawatts dans une zone urbaine. On s'entend qu'ils vont engager entre 4000 et 6000 personnes. La seule place qui était possible, c'était Montréal. Peut-être Québec. Alors,
OK, mais prenons ça par morceau. Est-ce que le terrain aurait été trouvable?
Écoutez, j'ai la liste ici parce qu'on regarde ça. Il y a peut-être 8 terrains au Québec qui sont zonés industriels de cette grandeur-là. Il y en avait un dans la région de Montréal.
OK. Deux, est-ce qu'il c'était possible de les fournir en électricité? Est-ce que l'enjeu, c'est la production ou la distribution d'électricité?
La distribution. Mais écoutez, comme j'ai dit, Hydro-Québec planifie 1500 mégawatts industriels d'ici 2030. Volkswagen demandait 800. Alors, premièrement, oui, ça aurait pu être disponible, ça aurait été tiré à l'extrême, mais deuxièmement, il était impossible. Pour faire une ligne de transmission pour amener sur un site comme Montréal, c'est entre 6 et 10 ans. Donc, il aurait fallu que le ministre de l'Économie ou le visionnaire du gouvernement dise à Hydro-Québec en 2019, on a besoin de 800 mégawatts à Montréal. Alors, malheureusement, il n'y a personne.
OK, l'usine d'électricité ontarienne est à côté du site. Il n'y a pas d'autre
ouais,
enjeu.
C'est à côté de London, Ontario. Là, il y a 500 000 personnes là. Il y a du courant électrique, il y a du gaz naturel. Oui, il y avait l'électricité. Okay, c'est en 2027 hein, qu'ils doivent avoir leur production. Donc, c'était électriquement... Hydro-Québec disait que c'était électriquement impossible.
OK, mais le chroniqueur Michel Girard du Journal de Montréal a écrit en fin de semaine qu'on aurait pu probablement, quand c'est si c'est juste ça le problème, ça aurait pu se faire.
Ben écoutez, Monsieur Girard ne comprend pas l'environnement parce que, écoutez, il aurait fallu que le ministre de l'Économie, le visionnaire, dise à Hydro-Québec, en décembre 2019, j'ai besoin de 800 mégawatts, alors que pendant 10 ans, il n'y a eu aucun projet. Deuxièmement, moi, je suis allé en Corée, en Chine et au Japon, en décembre 2019, c'était la première délégation du Québec parler de batterie. Là, on est rendu 3 ans après, dans le complexe de Bécancour. Donc, est-ce que j'avais pu penser en 2019 qu'il fallait 800 mégawatts de batterie à Montréal? La réponse est non. Il y a seulement une personne qui aurait pu penser ça.
OK. Comment vous avez pris ça que le fédéral annonce ça au Québec? Moi, là, j'ai trouvé ça un peu moyen qu'on annonce un méga investissement ici au Québec pour l'Ontario.
Écoutez, j'ai pas la réponse à la question.
Vous étiez là quand ça a été...
J'étais pas à l'annonce, mais j'ai pas... Écoutez, pourquoi M. Champagne et M. Trudeau étaient ici à Montréal pour propulsion, je pense. J'ai pas été pris prenante à ça, là. J'ai pas d'idée sur ça.
Ça fait bizarre pareil.
Ouais, écoutez, oui. Question logistique, peut-être. Volkswagen veut faire une annonce, il était à Montréal. J'ai pas posé la question, je dois.
OK. On parle d'électricité. Est-ce que le ou la future PDG de Hydro-Québec est choisi?
Il y a un processus qui suit son cours. La sélection n'est pas encore faite. Le conseil d'administration de Hydro-Québec fait son travail. Et comme vous savez, ça va être intégré par le conseil des ministres, le premier ministre. Alors, c'est pas encore terminé.
Ça devrait se compléter quand, selon vous?
On espère au mois d'avril.
Au plus tard?
Oui.
OK. mettez-vous votre nez là-dedans ou s'il est vraiment, vous attendez la réponse ou enfin la suggestion de Hydro-Québec?
Le processus est très clair. Le conseil d'administration d'Hydro-Québec doit faire des recommandations, mais on s'entend que c'est le conseil des ministres, donc le premier ministre qui va décider.
Ça veut dire que vous avez lu la loi d'Hydro-Québec finalement?
Oui. Non, je n'ai pas lu, mais quelqu'un m'a fait le sommaire.
OK. Ce matin, article dans le Journal de Montréal, on parle des montants qui ont été prêtés aux entreprises durant la période de pandémie et qu'il y a 70 millions d'aides là, qui ne seront pas remboursées. D'abord, est-ce que c'est vrai?
Ben écoutez, c'est une estimée et je dois avouer candidement que les prêts que nous avons accordés entre le programme du Pacte d'investissement Québec et le programme du POPME de ministère des FLI est à peu près 1,5 milliard. Si les pertes sont de 70 millions, il faudrait brûler un cierge pour Hydro-Québec, pour Investissement Québec, je m'excuse, le ministère de l'Économie. Les pertes vont être plus grandes que ça. Écoutez, on est en pandémie. Beaucoup de monde nous reprochait de ne pas assez aider. Donc, des prêts de 1,5 milliard, est-ce qu'il va y avoir des pertes? Absolument, puis ils vont être plus élevés que 70 millions.
Combien, selon vous?
Écoutez, moi j'avais évalué à l'époque 10 à 15 % peut-être. Mais tu sais, ça, c'était une estimée.
Mais là, ce serait le double de ce qui est là.
Ben, puis c'est peut-être des tripes aussi. Mettez-nous dans le contexte. Les banques perdent beaucoup d'argent aussi sur des prêts. Hein. Alors, écoutez, c'est un programme qui a été mis, la pandémie, les gens ont oublié peut-être, là, mais c'était très sérieux, la pandémie, pour les PME. Beaucoup de monde nous reprochait de ne pas assez aider. On a quand même fait 1,5 milliard. Là. On a aidé beaucoup. Les taux de faillite ont diminué durant la pandémie. Ils vont remonter. Il est clair qu'avec le vent de face que nous avons présentement, ça va être plus difficile. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres situations malheureusement difficiles, il y aura des pertes.
Vous disiez tantôt, là, aurait fallu prévoir la demande il y a quelques années. Il y a un contexte actuel où là, on ne sait pas trop si on va entrer dans une récession ou pas. On ne sait pas trop également s'il n'y aura pas d'autres projets majeurs comme ça d'investissement dans l'industrie électrique. Est-ce que vous avez projeté vers l'avant? Est-ce que vous êtes en train de dire, là, moi, j'ai un plan quand les signes de récession majeurs vont se faire entendre?
Absolument. Écoutez, au printemps 2022, avec l'équipe du ministère, on a établi à peu près, on parle d'électricité, là, de 9 à 10 000 mégawatts de projets, parce qu'on a une stratégie assez costaude au Québec sur l'industrie. L'aluminium, l'acier, les batteries, Science de la vie, la fameuse SQRI. Donc, on a une vision très claire des prochains 10 ans, nos stratégies industrielles et de services. Et par rapport à ça, ben, il faut donner soit du support en aide pré-pardon ou soit des mégawatts, un ou l'autre. Alors, on est très clair ce qu'on a besoin. D'ailleurs, Hydro-Québec, on travaille étroitement avec eux autres. On a vu les appels d'offres d'éolien qu'on a doublé. Alors, moi, je pense qu'on est capable d'arriver parce qu'on a planifié, justement. On sait exactement au gouvernement où on s'en va en termes de nos besoins, autant au niveau des besoins d'aide financière pour les entreprises, on travaille avec M. Girard, autant au niveau des besoins mégawatts pour Hydro-Québec, on travaille avec Hydro-Québec.
La perception de beaucoup de Québécois, là, c'est que ces gros joueurs, là, comme Volkswagen, quand ils débarquent, là, c'est pratiquement le gun sur la table, puis aux différentes juridictions, là, que ce soit à Québec, l'Ontario, le fédéral, puis c'est show me the money, puis après ça, on va vous dire si on vient ou pas.
Effectivement, puis on regarde, je pense, là, on est vent de face au Québec avec l'IRA, vous connaissez l'Investment Reduction Act, Inflation Reduction Act, je m'excuse. Et c'est majeur, là. On parle de 479 milliards, ça va mettre un trillion de dollars. Donc, la position qu'on doit prendre, c'est de...
Peut-être d'expliquer aux auditeurs ce
que c'est. Oui, raison. Les Américains ont un programme d'assistance financière pour les dépenses en immobilisation et aussi pour les dépenses d'opération qui est très costaude parce qu'ils veulent protéger aux États-Unis cette filière énergétique-là. Donc, nous, au Canada, et je parle régulièrement au ministère des Finances, à M. Sébia, qui est le sous-ministre, et M. Champagne, et on regarde au Canada, au Québec, quels sont les projets. Moi, j'ai 3 projets présentement. Un annoncé avec GM, 2 qui vont être annoncés bientôt, où on regarde comment on va moduler au Québec une aide financière raisonnable selon nos moyens avec le fédéral. Volkswagen, c'est ça qui est arrivé. Le fédéral, l'Ontario, en fait, ont prêté des sommes importantes. Là, j'ai pas les chiffres exacts. Au Québec, on a la même chose. Donc, c'est sûr qu'on a un vent de face et il faut être très parcimonieux. Quand je disais tantôt, on a 23 000 mégawatts de demandes hydroélectriques. Il y en a la moitié qu'on a même enlevé de la carte sans même parler d'Hydro-Québec parce que ça n'avait pas de sens. Alors, je pense qu'il faut être prudent. Vous avez raison. Mais dans certains secteurs, je pense au secteur aluminium, secteur des batteries, on est rendu à 4,3 milliards de projets avec en cours. On pourrait finir à 8 milliards. Il va falloir choisir des secteurs où nous voulons être présents. On ne peut pas tous les faire, c'est impossible.
Est-ce que des fois, ça vous provoque un peu, ça, quand vous voyez les demandes disons, des multinationales qui se comportent comme des quêteux?
Ben écoutez, en partie, oui. Mais de l'autre côté, l'avantage Québec, il est majeur. On a au Québec un environnement tellement intéressant pour les entreprises. Puis là, je voyage dans le monde. J'ai commencé à voyager depuis la fin de la pandémie. Université, le talent, le bilinguisme, multiculturalisme, l'énergie verte. Il ne faut pas oublier une chose. L'énergie verte, là, un jour, ça va se payer, ça. Un jour, les gens vont vouloir payer pour ça. Alors, au Québec, on est un terroir extrêmement fertile. Alors, moi, je suis très confiant. Oui, souvent, on est un peu achalé parce que c'est question d'argent. Mais comme je dis à tout le monde, le Québec doit prendre des projets qui sont stratégiquement importants pour le Québec. La finance, ça vient en deuxième. Si une entreprise vient au Québec seulement à cause d'incitifs financiers, c'est pas une erreur pour nous autres d'accepter ça. Mais quand on regarde la filière batterie, ce qu'on est en train de bâtir avec les 14 derniers à Bécancour, c'est jamais vu. Là. Au Québec, on n'a jamais vu ça. Les derniers projets importants au Québec en haut de 2 milliards, c'est en 2002 avec Alouette, puis c'est en 2008 avec le C-Series de Bombardier. Il n'y a rien eu, il y a rien eu aux 2 milliards depuis ce temps-là. Alors, je pense qu'il faut être parcimonieux. Moi, je suis heureux parce qu'on a le choix de pouvoir dire non. Il y a beaucoup de juridictions qui ne peuvent pas dire non parce qu'il n'y a pas de projet.
Vous êtes le super ministre puis le ministre de la métropole. Là, on a un enjeu avec les Airbnb de ce monde-là. La ville dit on les interdit dans le vieux. Il y en a des centaines et des centaines. Le ministère du Tourisme nous dit, ben nous autres, on donne une certification puis ça prend un numéro puis ce sont les taxes. Puis là, c'est la partie de ping-pong qui commence entre les deux. Que dit le ministre de la Métropole?
Écoutez, je suis très concerné, puis ma collègue Caroline Poul est encore plus que moi, étant responsable de ce dossier-là. Au même titre, les itinérants, on a un problème. Ce qui se passe à Berry-UQAM, là, c'est pas agréable, le paquet de Nigamné. Alors moi, quand je parle à la mairesse, clairement, bon, le côté Airbnb, on l'a vu ce qui s'est passé en fin de semaine. J'ai passé devant l'édifice justement hier. Alors, ma collègue Caroline va attaquer ça, c'est sûr. On peut pas accepter. C'est
parce qu'on peut pas faire un règlement, puis il n'y a personne qui l'applique.
Vous avez raison. Alors, Caroline a ça sous contrôle, je suis pas inquiet du tout. Et de l'autre côté, l'itinérance, c'est la même chose. Il faut faire quelque chose aussi, parce que il faut s'occuper de Montréal, du centre-ville. Là. Je pense qu'il y a des choses majeures qu'il faut faire au centre-ville.
Vous vous pognez combien de fois par semaine avec des journalistes du Journal de Montréal?
Pas tant que ça. Je lis pas le Journal de Montréal. Faut comprendre.
Non, mais dans les points de presse.
Ben, c'est ça, pas tant que ça. C'est leur prérogative. Je respecte ce que je dois faire. Comme M. Girard, en fin de semaine, l'article qu'il a écrit était, à mon sens, à aucun bon sens. Alors, je pense qu'il faut faire attention. Et comme politicien, je me dois de dire quand je suis pas d'accord. Je respecte les gens qui sont pas d'accord avec mes opinions. Je regarde M. Vaille dans la presse, par exemple. Il a fait un travail extraordinaire sur l'aluminium. Je suis pas d'accord avec ses recommandations, mais je le respecte énormément. Mais il faut respecter les gens qui sont capables de dire les choses et de faire le travail comme il faut.
Est-ce que vous voyez ça comme un acharnement sur vous?
Non, je m'amuse avec ça, dans le fond.
Vous amusez avec ça?
Il faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Là.
OK. Deux, trois questions rapides, parce que je sais que le temps file. D'abord, vous avez dit dans un point de presse qu'on devrait, nous les journalistes, dévoiler nos sources.
Je pense que c'est une erreur. J'ai réalisé après que, premièrement, je peux pas réguler ce que vous allez faire comme journaliste. Par contre, ce que j'ai dit, ce que je voulais dire, c'est que je donne pas crédibilité à des gens qui vont donner des sources anonymes, dans le sens que pour moi, c'est comme anecdotique.
C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement des sources anonymes, on peut pas les nommer. S'il y avait pas eu des sources, il y aurait pas eu de scandale des commandites. S'il y avait pas eu des sources, il y aurait pas eu la commission Charbonneau. Puis en plus, les ministères empêchent les gens de nous parler. On ne peut pas les nommer.
Non, vous avez raison. Ma pensée était de dire, je ne donne pas l'article que vous référez, là, où il y avait deux ministres qui avaient parlé. Là, le journaliste qui écrit ça, je ne donne pas crédibilité parce que faut nommer les gens pour faire des accusations comme il y a des faits. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que j'accorde beaucoup plus d'importance quand on sait qui a parlé et qui a dit quoi.
Est-ce que c'est vrai que vous entrez et vous êtes le seul au Conseil des ministres avec votre téléphone?
Ben, premièrement, je vais respecter les exigences du Conseil des ministres de ne pas divulguer ce qui se passe à l'intérieur. Je vais juste répondre que je suis très focalisé sur mes dossiers, donc je n'ai pas de distraction généralement quand je suis au Conseil des ministres.
Ça ne répond pas pantoute à la question, là. Avez-vous votre téléphone ou pas quand vous êtes assis autour de la table?
Je n'y répondrai pas parce que on ne peut pas divulguer ce qui se passe au Conseil des ministres.
Bon, pensez que c'est vrai, moi, de bord. Si vous n'y êtes pas, moi, j'assume que c'est vrai. Ça se peut que ça indispose des autres.
Je vais être cohérent avec tout ce qui dit aux Conseil des ministres. Je n'ai jamais répété ce qu'il dit. Je pense que c'est une politique que tout le monde devrait suivre à la lettre.
Mais là, je ne vous demande pas de me dire ce qui se dit autour de la table. Je veux savoir si vous avez votre téléphone dans votre poche.
Mon téléphone est toujours dans ma poche.
Ça répond à ma question. Merci d'être venu ce matin. Pierre Fitzgibbon est le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Maintenant, on va revenir sur le dossier de ces sites de location court terme comme Airbnb, puis il y en a d'autres, là, pour voir exactement comment les villes gèrent le phénomène. Et c'est pas qu'au Québec, là. Il y a des villes qui ont des règlements très stricts qui interdisent ces locations. Il y a des immeubles où c'est interdit. Mélissa Coulombe-Leduc est conseillère à Québec et responsable à Québec, donc, du patrimoine, du tourisme et de l'urbanisme. Madame Coulombe-Leduc, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, comment vous gérez ça, les fameuses plateformes de location court terme à Québec? C'est interdit, c'est permis, comment ça marche?
Bien, en ce moment, on est dans une espèce de zone de transition parce que le gouvernement du Québec est venu changer sa loi sur l'hébergement touristique puis son règlement dans les derniers mois. Donc, en ce moment, on est vraiment dans une transition au niveau des municipalités au Québec. Là, vous avez sûrement entendu parler de la fameuse date du 25 mars. Au-delà de laquelle, là, si les municipalités n'ont pas adopté des règlements, ben l'hébergement touristique dans les résidences principales va être permis sur l'ensemble du territoire du Québec. Donc, chaque municipalité adopte sa propre législation. Nous, à Québec, l'hébergement touristique dans une résidence principale est permis sur l'ensemble de notre territoire depuis 2019. Mais étant donné les révisions réglementaires et législatives qui ont eu lieu, ben nous aussi, on est là-dedans en ce moment à analyser différentes options pour venir encadrer davantage la notion d'hébergement touristique.
OK. À Québec, c'est permis, mais vous pensez limiter. Vous pensez à quoi exactement?
Oui. Ben, il faut savoir que c'est permis, comme je disais, sur l'ensemble du territoire dans la résidence principale. Donc, vous et moi, là, qui partez 3 semaines par année, puis qui décidons de le mettre là 3 semaines là, le temps qu'on parte. Par contre, le commercial, il est encadré. Donc, ça, c'est acheter un bâtiment, ne pas l'occuper, puis décider de faire de l'hébergement touristique à la grandeur. Puis ça, ben, on vient l'encadrer avec le zonage là, à Québec.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres de propriétaires de Québec, là, puis même des locataires dans certains cas, là, qui inondent les plateformes?
Bien, on sait que on a entendu parler dans les derniers jours là, avec le triste événement, puis d'ailleurs, permettez-moi, M. Arcand, de transmettre toute notre sympathie, notre équipe, notre administration, famille éprouvée, c'est vraiment d'une tristesse incroyable, là, vous en parliez juste avant, mais donc oui, nous aussi, on constate sur des plateformes comme Inside the Airbnb qu'il y a énormément d'hébergements touristiques illégaux qui se font. Donc, on a le zonage, c'est à peu près le seul levier que les villes disposent pour pouvoir venir encadrer, parce que le reste des éléments se trouve beaucoup au niveau de la loi puis du règlement, donc au niveau du ministère du Tourisme à Québec.
On dirait que les villes font prennent des décisions de leur côté, là, font des règlements, que Québec prend d'autres initiatives, mais qu'il n'y a pas grand monde pour les appliquer.
Oui. Ce qui est difficile en ce moment, M. Arcand, puis là, on l'a vu avec la problématique puis les tristes événements à Montréal, c'est que on le sait, là, les gens qui veulent faire de l'hébergement touristique sont techniquement censés aller chercher un numéro d'enregistrement auprès. Mais dans le cas de l'hébergement touristique illégal, ils ne le font pas. Puis nous, souvent, c'est ce numéro d'enregistrement-là qui va nous permettre d'encadrer puis de faire respecter nos règlements au niveau du zonage. Parce qu'à partir du moment où il se fait illégalement, donc que les gens vont pas chercher ce numéro d'enregistrement-là, on perd un peu la trace. Donc, ça, c'est censé être une obligation qui est entrée en vigueur dans les règlements puis la loi qui a été changée dans les derniers mois. Et il faut qu'on fasse davantage de sensibilisation puis qu'on informe davantage les gens que ce numéro-là, il est obligatoire. Parce que notre capacité à faire respecter nos propres règlements dépend un peu du respect d'aller chercher, cette obligation-là d'aller chercher le numéro d'enregistrement.
Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui n'en ont pas de numéro puis qui affichent pareil leur logement à louer. Entre vous et moi, là, les risques que je me fasse prendre sont assez minces.
Bien, définitivement qu'il va falloir augmenter de part et d'autre les ressources dédiées à l'inspection. Mais là, il y a des dispositions qui sont entrées en vigueur dans les derniers mois, puis on est obligé de se dire qu'elles sont un peu méconnues. Il y en a probablement qui vont pas le chercher parce qu'ils veulent faire de l'hébergement touristique de manière illégale, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ne sont même pas au courant que pour faire de l'hébergement dans leur propre résidence principale 3 semaines par année, ils doivent quand même avoir ce numéro-là. Et si on suit au règlement et à la loi du gouvernement du Québec, c'est censé être affiché dans l'annonce sur la plateforme utilisée. Un rapide coup d'œil, là, en ce moment, nous permet de constater que ces numéros-là ne souvent, on voit des annonces sans numéro, en fait. Là.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci,
M. Merci, au revoir. Mélissa Coulombe-Leduc est conseillère au Conseil municipal de Québec et membre de l'exécutif, responsable du patrimoine, du tourisme et de l'urbanisme.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Je veux revenir sur un point important ce matin avec, je le disais, le drame à Amqui et ce triple meurtre dans Rosemont vendredi. Encore une fois, et puis on le voit même ce matin, là, on revient avec la santé mentale. La semaine dernière, pardon, Dr Marie-Ève Coton nous a dit, ces tueurs de masse, là, la grande majorité d'entre eux n'ont pas de problème de santé mentale, c'est pas une maladie. Ils ont toutes sortes de problèmes, là, ils vivent toutes sortes de réalités, mais on n'est pas dans ça. Et puis, quand vous regardez, par exemple, le cas de Rosemont, le suspect, c'est un jeune homme de 19 ans, il a comparu en fin de semaine, il s'appelle Arthur Galarneau. Il aurait donc poignardé sa mère, son père, sa grand-mère. Et les gens qui le connaissent parlent d'enjeux, bon, de santé mentale, de consommation de drogue. On dit également qu'il a envoyé des messages sur les réseaux sociaux disant que c'était peut-être plus sous contrôle. Et veut, veut pas, quand on regarde les saisies qui sont faites par les policiers, des millions de comprimés de toutes sortes, si ça produit autant, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a des consommateurs. Et donc, question de base, quel est l'impact de cette consommation ou de certains types de drogue sur le cerveau de ceux qui en consomment? Puis est-ce que ça peut amener à des actes aussi violents? Docteur Coton est de retour avec nous ce matin. Docteur Coton, bonjour.
Bonjour.
Vous le disiez la semaine dernière, là, faut arrêter de sortir les problèmes de maladie mentale comme étant le facteur le plus important dans ces meurtres de masse. Il faut parler de problèmes de toutes sortes. Est-ce qu'on a déjà mesuré l'impact de la consommation de drogue sur le cerveau chez certaines personnes qui commettent des actes aussi violents?
Bien, en fait, c'est qu'on sait plusieurs choses de l'impact des drogues. D'abord, c'est un facteur de risque beaucoup plus important que les troubles de santé mentale, que la maladie mentale comme telle, pour à la fois les tueries de masse et pour les homicides en général. Donc, on va retrouver plus souvent des personnes qui ont des problèmes de consommation que des gens qui ont des maladies mentales comme telles là, chez les gens qui commettent et des homicides et des tueries de masse. Maintenant, les drogues vont augmenter le risque d'homicide, qu'ils aient un impact sur le cerveau dans l'immédiat ou pas. C'est-à-dire que ça peut arriver parfois que les drogues vont induire des psychoses, et là, la personne va être dans un état de rupture de contact avec la réalité. Ça peut amener des gestes, mais même en dehors de ça, c'est-à-dire même quelqu'un que la drogue ne rend pas en état de psychose, on sait que les gens qui consomment sont plus à risque de violence en général et d'homicide en particulier aussi.
Quand vous dites les gens qui consomment, vous pensez à des gens qui consomment quoi?
Ben, en fait, le risque est augmenté un petit peu avec les substances en général, et il y a des substances plus dangereuses que d'autres. L'alcool, par exemple, est dangereuse au niveau de la violence parce qu'elle désinhibe. Elle va avoir cet effet de faire en sorte qu'on a moins de contrôle sur nous-mêmes. Des drogues comme la cocaïne, les amphétamines, ce qu'on appelle le speed, ça, c'est des drogues qui amènent les gens à avoir beaucoup de confiance en eux, beaucoup d'énergie. Donc, ça aussi, ça peut amener des débordements violents. Donc, il y en a qui sont plus à risque, si vous voulez, mais de façon générale, toutes les substances augmentent. Qu'on consomme n'importe quelle sorte de substance, notre risque d'homicide est augmenté.
OK. Moi, je veux juste comprendre la différence entre quelqu'un qui est, par exemple, schizophrène, là, qui entend des voix, puis quelqu'un qui a toutes sortes de problèmes, on l'a dit la semaine dernière, là, que problème d'isolement, problème d'intimidation, problème d'entrer en contact avec les autres, puis qui consomme par-dessus ça. Ça veut dire quoi? Il peut créer une psychose chimique?
Quand les drogues induisent de la psychose, c'est que la personne avait au départ une fragilité biologique, si vous voulez. Il y a des gens qui peuvent consommer autant de drogues qu'ils veulent, ils feront jamais de psychose parce qu'ils n'ont pas la vulnérabilité en eux. Donc, faut avoir une vulnérabilité. Puis, en fait, ce qu'on regarde, quand on regarde les facteurs de risque d'homicide, on retrouve beaucoup de facteurs qui sont similaires à ceux qu'on a pour les tueries de masse. Donc, que ce soit des gens isolés socialement, des gens qui sont en situation de précarité financière, des hommes de moins de 40 ans, des gens qui sont en situation d'exclusion sociale et des gens qui ont de la toxicomanie. Donc, tous ces facteurs de risque-là, ça, c'est des facteurs de risque de violence. Donc, si les gens cumulent un ou plusieurs de ces facteurs-là, ils vont être plus à risque d'homicide, qu'ils aient un trouble mental ou pas. T'sais, le trouble mental, il est pas fondamental dans le risque de violence. C'est si tu as les autres facteurs beaucoup plus déterminants, ben là, que tu aies une maladie mentale ou pas, ça va faire en sorte que ton risque de violence augmente. Et ces risques de violence-là, ben comme je viens de le dire, c'est être un homme de moins de 40 ans, être isolé, pas avoir d'emploi, avoir grandi dans un milieu violent, avoir été soi-même, avoir subi de la violence, consommer. Donc, si on a tous ces facteurs-là, c'est comme un peu secondaire, si vous voulez, qu'on ait un trouble mental ou pas, tout ça, ça va augmenter notre risque de violence.
Je vois dans Le Devoir ce matin là des centres d'aide pour des hommes violents où la liste d'attente est quand même importante là. On parle de 4 mois, des fois 5, des fois 6 à Montréal. Un homme qui est rendu là, c'est qu'il est pas juste en train de s'interroger voir s'il est violent ou pas un peu là. C'est que soit qu'il a posé des gestes ou il est sur le bord d'exploser là.
Oui, la demande d'aide est importante parce que des fois, c'est sûr qu'il y a un frein à la consultation chez les hommes. Les hommes consultent moins en santé mentale que les femmes. Et on pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils commettent beaucoup plus d'homicides et ils commettent beaucoup plus de suicides aussi. Mais ça arrive que des hommes vont demander de l'aide. Ça m'est arrivé aussi. J'ai déjà demandé à un homme s'il allait pas bien, s'il avait pensé à tuer ses enfants. Il m'a dit oui. Il est hospitalisé 3 mois, puis il n'a jamais tué ses enfants. Donc, quand on... même si les valeurs masculines traditionnelles empêchent beaucoup d'hommes de consulter, parce que c'est comme si dans les valeurs, il faut qu'un homme ça règle ses problèmes tout seul, que ça n'ait jamais besoin d'aide, que ce soit toujours autonome, mais cette porte ouverte-là, elle va empêcher le passage à l'acte violent chez certains hommes.
Je parlais avec une psychologue la semaine dernière qui disait que les jeunes hommes sont plus portés à aller chercher de l'aide, sont moins peut-être réfractaires.
Ça, c'est très encourageant parce que ça peut, je pense, vraiment faire une différence par rapport à... d'une part à eux, vous savez, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes, mais ça aussi, c'est un problème. Et d'autre part, parce que je pense vraiment que cette porte ouverte-là, la possibilité d'aller parler de ses émotions avec quelqu'un, c'est une façon de ne pas les agir. Tu sais, de la frustration... les gens qui sont violents, ils en vivent la frustration. T'sais, ils ont vraiment beaucoup de colère et tout ça. Il y a une façon, on peut la gérer en la parlant, en étant bien accueilli par quelqu'un d'empathique avec ça. Ça peut empêcher cette pulsion de l'agir dans un geste destructeur.
Merci beaucoup. Toujours très éclairant, docteur Coton. Bonne journée.
Ça fait plaisir. Bonne
Merci,
journée.
Merci, docteur Marie-Ève Coton, qui est psychiatre.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Je vais vous parler ce matin d'un débat qui fait rage depuis plusieurs années dans le canton de Pothun, c'est-à-dire un débat entre des citoyens qui sont là-bas parce qu'ils veulent vivre dans un coin de villégiature intéressant et également d'autres qui veulent avoir la permission de se promener avec, par exemple, toutes sortes de véhicules. Évidemment, les motocross, les motoneiges, ça demeure interdit, mais d'autres véhicules hors route qui peuvent être utilisés. Puis il y a quelques années, il y avait un règlement qui avait été passé pour le permettre. Ça avait été annulé. Le ministre Bonnardel était intervenu. Et là, depuis le 6 mars, il est permis de circuler en VTT sur certaines routes du canton de Pothun, des 4 roues côte à côte qui sont autorisées à emprunter le réseau. C'est à peu près sur une distance de 50 km. Puis je rappelle, là, pas de motoneige. Donc, il y a des citoyens et citoyennes qui sont pas très, très confortables avec cette idée-là. Manon Barbeau est avec nous ce matin. Elle possède une résidence dans le canton de Pothun. Madame Barbeau, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Arcan. Merci de nous donner une voix.
OK, ben je veux vous entendre là-dessus. En quoi ça dérange la quiétude, la présence de ce type de véhicule là sur les routes du canton sur 50 km?
D'accord. Je veux d'abord dire que les gens qui sont inquiets sont pas contre le VHR. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, qui sont eux-mêmes des propriétaires de VHR, qui l'utilisent pour son utilité, pour sur le, puis le plaisir aussi sur leur terre. Et puis on dit parfois que ce sont des villégiateurs qui sont contre, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui sont nés à Potune qui sont aussi inquiets dans le moment. Ce qu'on comprend mal, c'est que M. Bonnardel lui-même disait en 2019, qui était le ministre des Transports à ce moment-là, ce n'est pas sécuritaire de laisser les VHR se promener sur les réseaux routiers. Ça, je le cite textuellement. Le règlement a quand même été adopté par la municipalité deux fois. Ils ont quand même mis les panneaux qu'on pouvait circuler. Et là, ça se reproduit maintenant. Et la loi édictée par le ministère des Transports qui veut protéger les citoyens dit elle-même en toutes lettres qu'on ne peut pas accéder par la route à des sentiers. Il faut avoir un réseau de sentiers protégés pour pouvoir utiliser la route sur une toute petite distance pour s'y rendre. C'est la condition, avoir un réseau de sentiers fédérés, j'ai dit protégés, un réseau de sentiers fédérés. On n'en a pas du tout. Et dans le moment, c'est 50 kilomètres qui est beaucoup de routes avec des camions, des bus scolaires, tous les services de la communauté qui sont mis à la disposition et sont considérés comme un réseau de sentiers comme on n'en a pas et qui mène à 2 kilomètres de sentier. Ça fait que c'est comme une absurdité de mettre sur la route des VHR où tout le monde est vulnérable, les conducteurs de VHR, les premiers, qui vont rencontrer tout ce trafic-là, alors que la loi du ministère des Transports elle-même interdit ça. Alors, on comprend pas trop que au changement de direction au ministère, par exemple, que Mme Guilbeault, qui doit être aussi préoccupée de la sécurité de ses citoyens, permettent ça à ce moment, alors que M. Bonnardel avait eu le courage de se mêler un peu des affaires municipales, ce qu'il n'aime pas du tout faire. Donc, ça prend du courage et une vraie préoccupation pour dire maintenant, OK, vous pouvez circuler sur le petit 2 kilomètres ou aller faire des courses, disons, au bout du 8 heures, à la condition que les VHR soient transportés d'un point à un autre. Alors, les amateurs de VHR avaient leur plaisir et la population générale était protégée. Autant les amateurs de VHR que les enfants qui circulent sur la route. Moi, mes petits-enfants sont là. Ils passent d'une maison à l'autre chez les amis. Les familles sont en bordure de route. Puis on sait que 30% des accidents de VHR ont lieu sur les routes. Ça s'appelle VHR. C'est pas conçu pour être sur les routes.
Mais Mme Barbeau, ce que je comprends de votre propos ce matin, vous dites qu'il y a à la fois un enjeu de sécurité publique là dans la mesure où il y a ce sont des routes, vous le dites, où il peut y avoir circulation de différents types de véhicules. Puis en oui. même temps, il y a aussi la crainte de voir augmenter le volume de ces véhicules-là, non?
Bien, maintenant que c'est légal, là, ça va être 365 jours par année, 7 jours par semaine, de 7h du matin à 22h du soir. Et le règlement de la Fédération des clubs de quad ouvre à ce moment-là, il y en a plus que 100 clubs de VHR au Québec, là, ouvre tous les réseaux de sentiers, normalement, mais là, nous, c'est de route, à tous les amateurs qui sont dans ces clubs-là. Ça veut dire qu'ils peuvent arriver par centaines s'ils apprennent justement une course au bout d'un chemin. Bon, ils se passent le mot, ils arrivent par centaines et ils se mêlent au trafic et à la population qui vit là. Alors, c'est vraiment une vraie crainte. Et moi, j'ai l'impression que la force de la Fédération des clubs quad et la pression qu'ils ont fait sur le ministère empêche Mme Guilbeault de faire un jugement éclairé sur cette situation-là. Il faudrait qu'elle vienne se promener sur ces chemins-là, appelés maintenant sentiers, pour voir la circulation, à quel point ces sentiers-là, ces chemins-là, sont sinueux et à quel point on évite les accidents de justesse plusieurs fois par année.
Est-ce que depuis le 6 mars, là, c'est récent, mais quand même, vous avez observé des changements?
Là, ils doivent réinstaller les panneaux. Et quand les panneaux vont être réinstallés, là, on en voit quelques-uns, évidemment, mais quand les panneaux vont être réinstallés et que ça va être vraiment officiel, c'est sûr que la circulation va recommencer. Avant M. Bonnardel, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avant M. Bonnardel, c'était illégal. Alors, c'était ceux qui osaient, donc un petit nombre, confronter la loi, puis se promener, puis prendre quand même le risque. Mais là, ça devient légal. Alors, c'est tellement ouvert à tous que c'est vraiment, vraiment Je trouve que c'est une irresponsabilité et une méconnaissance du dossier et baisser les bras devant la Fédération des clubs quads.
Madame Barbeau, merci d'avoir été avec nous. Manon Barbeau est citoyenne dans le canton de Potten et c'est vrai que le ministre des Transports de l'époque, François Bonnardel, avait renversé ça en disant « ça n'a pas de bon sens, c'est pas sécuritaire ». Et depuis ce temps, et le conseil municipal dit « c'est une minorité », mais l'impression que la minorité est peut-être pas si petite que ça, et qu'il y a des voix qui vont se faire entendre, surtout quand les gens vont mesurer ce que ça veut dire en pratique sur le terrain.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
L'ex-président Trump a déclaré en fin de semaine qu'il serait arrêté mardi. Par qui? Par les autorités de New York. Il y a une enquête qui dure et qui dure. En fait, il y a plusieurs enquêtes concernant Trump. Mais cette fois, c'est en lien avec une somme d'argent qui a été versée à une actrice de films pour adultes. Et on se demande, est-ce qu'il y a de la fraude? Est-ce qu'on a violé la loi électorale? Charles-Philippe David est avec nous ce matin. Bonjour, Charles-Philippe.
Bonjour, Paul.
Peut-être d'abord résumer les enjeux là de cette enquête menée par les procureurs de la ville de New York.
Bien, le procureur spécial de Manhattan a déposé donc ce dossier devant déjà un jury qui en secret a dû délibérer pour examiner la possibilité d'inculper, comme vous l'avez dit, Donald Trump de méfaits. Et ce sont en fait des méfaits financiers qu'on lui reproche parce que dans l'affaire de Stormy Daniels, une des deux femmes qui est donc qui aurait reçu de l'argent, des montants considérables de la part de l'ancien président des États-Unis. On parle en gros de 130, 140 000 dollars pour chacune de ces dames. Cet argent aurait transité à l'intérieur de l'organisation Trump pour être utilisé par l'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, qui a donc payé ces dames, acheté leur silence. Mais cet argent, donc, a été utilisé d'une manière frauduleuse, car les lois électorales américaines empêchent que vous utilisiez de l'argent de vos compagnies pour des fins, après tout, électorales, puisqu'acheter leur silence, c'était une manière de faire en sorte qu'elles n'entravent pas, elles ne nuisent pas les dames à la campagne électorale de Donald Trump. Je vous rappelle que là, on est en 2016. Alors voilà, maintenant tout ça éclate au grand jour. Je pense que les chefs d'inculpation ont été pris en délibéré. Et là, maintenant, on attend la décision à savoir est-ce que le procureur, M. Briggs, va donc inculper officiellement Donald Trump et exiger son arrestation. Alors là, il faut savoir que Donald Trump est à Mar-a-Lago, à West Palm Beach, et donc cela voudrait dire, imaginez un peu, que les services secrets américains qui le protègent encore doivent le livrer à la police pour prendre ses empreintes, etc. C'est surréel. Si cela arrivait, Paul, c'est une première dans l'histoire des États-Unis.
Mais il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est-à-dire l'appel que Trump fait en disant en fin de semaine, écoutez, mardi, chers partisans, je serai arrêté. C'est pas une opération policière judiciaire, c'est une opération politique. C'est un appel à la mobilisation de ses fans, là.
On a l'impression de revivre un petit peu le scénario que tout le monde voudrait oublier du 6 janvier 2021, Paul, lorsque Trump, donc, avec cette déclaration ou ce tweet absolument stupéfiant en lettres majuscules, appelle ses partisans à manifester et se rassembler devant le building à New York où travaille le procureur du district de Manhattan. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. Et en plus, s'il faut en rajouter, durant tout le week-end, plusieurs figures notoires du Parti républicain, dont Kevin McCarthy, le leader de la majorité à la Chambre, lui-même républicain, qui appuie Donald Trump, Mike Pence, son ancien vice-président, qui a eu maille à partir avec lui récemment et l'a dénoncé, ben cette fois-ci le rallye en disant que c'est une chasse aux sorcières. Donc tout ça attise les feux politiques. Et espérons que cela ne mènera pas, si ce n'est pas demain, en tout cas dans les prochains jours ou les prochaines semaines, à un autre coup d'éclat des partisans de Donald Trump et cette fois-ci à New York.
C'est intéressant ce que tu mentionnais, Charles-Philippe. Trump se trouve en Floride. Le gouverneur de la Floride, DeSantis, est l'adversaire potentiel de Trump. Et sauf erreur, il a été, lui, pas mal muet en fin de semaine.
Ron DeSantis veut conserver son image de quelqu'un qui ferait beaucoup mieux que Donald Trump pour gérer les affaires du pays, mais ne veut pas perdre la base de Donald Trump. La ligne est fine pour Ron DeSantis. Donc, être trumpiste, mais sans Trump. Parce que Trump est rendu un facteur nuisible pour les chances électorales du Parti républicain. En tout cas, du moins, c'est certainement l'avis de Ron DeSantis, mais aussi d'autres adversaires comme Nikki Haley, par exemple, qui se présente comme candidate républicaine. Alors voilà, est-ce qu'il est possible de surmonter le clivage qui s'appelle Donald Trump en ralliant les républicains? Voilà un objectif qui n'est pas une mince tâche.
Merci, Charles-Philippe. Bonne journée.
Je vous en prie,
bonjour. Au revoir. Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Houle d'Endurant et président de l'Observatoire sur les États-Unis.
C'est 23.